Mehdi 1, Karima et Salma, Matin Famille.
Et comme convenu, nous sommes en direct avec le docteur Atman Lourabi, psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Docteur Atman Lourabi, bonjour, un plaisir de vous retrouver dans Matin Famille. Ça faisait longtemps.
Bonjour Karima, bonjour Salma, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de médias radio.
De même. Le plaisir est pour nous, docteur. Alors, c'est la rentrée, voilà, actualité oblige. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'éducation positive, en quoi ça consiste?
Alors, moi j'aimerais commencer par un chiffre qui va vous faire sourire, que j'ai trouvé en faisant des petites recherches.
Oui. 41,
c'est le nombre de fois où on va chercher à faire obéir un enfant en moyenne par jour.
Par jour?
41 fois. Oui, c'est-à-dire que les études ont avancé un chiffre qui est en moyenne de l'ordre de 15 000 fois par an. Donc, dans ce contexte de rentrée scolaire où, rappelons-le, est synonyme de fin de presque 3 mois de vacances, il faut vite reprendre les bonnes habitudes, il faut quelquefois énormément changer le rythme de sommeil, de réveil, d'alimentation, etc. Donc c'est une période qui va être au sein de la majorité des familles source de tension avec des crises répétées avec les enfants, avec probablement des cris des heures qui vont être sur le plan éducatif. Et c'est vrai que quand vous évoquiez l'éducation positive, ça c'est quelque chose dont on parle, qui est à la mode, hein, dont on parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de livres qui sont édités sur le sujet. Mais c'est un petit peu malheureusement un fourre-tout et quelquefois c'est même source de confusion. Parce que quand on parle d'éducation positive, cela fait référence plutôt à ce qu'on appelle la psychologie positive, où bien sûr quand on parle d'enfant, les principes c'est la bienveillance, c'est la non-violence, c'est le fait de les sécuriser ou dans leur attachement à nous, c'est le fait de s'intéresser à leurs besoins en essayant d'agir sur leur environnement pour qu'ils s'épanouissent un maximum. Le renforcement positif, et c'est de là que vient le nom, et qui est une notion plutôt comportementale et qui correspond grosso modo au fait de complimenter l'enfant quand il est dans des agissements ou des comportements qu'on souhaite. Donc c'est ça la vraie éducation positive. Malheureusement, je disais des petites confusions, c'est que souvent on a tendance à entendre que il faut pas dire non aux enfants, il faut pas leur imposer des limites avec quelquefois des sanctions qui peuvent être de l'ordre de la privation de télé, de sortie, ce genre de choses. Alors bien évidemment il y a quelque chose de très important, c'est que quand on parle de violence éducative, c'est-à-dire que soit les violences corporelles ou les violences psychologique. Alors, les études sont quasiment toutes unanimes. Elles montrent que un enfant qui n'a pas ou très peu reçu de violence est quand même en meilleure santé, et ça s'entend, en meilleure santé qu'un enfant qui a eu une éducation violente. Donc ça, bien sûr, c'est important de le rappeler. Et si vous voulez, le problème qu'il y a avec ces confusions qu'il y a au niveau de la parentalité positive ou de l'éducation positive, surtout dans ces contextes de fort stress familial comme la rentrée, en quoi, et c'est un stress qui est partagé entre les enfants et les parents, parce que c'est de la même manière que tous les deux ont besoin de changer ce qu'on appelle le rythme biosocial, c'est-à-dire à quelle heure on se réveille, à quelle heure on se couche, quelles sont nos heures libres, et à quelle heure on s'alimente, etc. Il y a aussi bien évidemment pour les parents les enjeux scolaires, entre guillemets, donc de performance, d'apprentissage, etc. Pour les enfants, ça peut être partagé comme inquiétude, mais ça va être aussi sur le plan relationnel, quelle va être la relation avec les camarades, l'ambiance au sein de la classe, ce genre de choses, est-ce que je vais être avec mes amis ou pas. Donc, c'est vraiment une période de forte fragilité au sein de la famille, et le fait de peut-être quelquefois essayer de trop suivre à la lettre la psychologie positive dans ses dérives, va exposer peut-être plus certainement les parents à une espèce d'épuisement ouais. psychologique, de burn-out, alors par plusieurs phénomènes, parce que, rappelons-le, c'est le fait d'être centré sur les besoins de l'enfant ou des enfants, donc par définition, ça veut dire qu'on relègue, nous, en tant que parents, nos besoins au second plan. C'est aussi parce que, si on est un peu sensibilisé à la question de l'éducation positive, on se rend bien compte quand on crie, quand on n'en peut plus, quand il y a un petit coup de colère, qu'on ne fait pas les choses qu'il faudrait, et ça va engendrer de la culpabilité, il y a le sentiment d'échec en tant que parent. Bref, ça commence à devenir vraiment une injonction de perfection pour les parents qui est intenable. Et puis, autre chose très important quand on parle aussi d'éducation, c'est que c'est quelque chose à laquelle beaucoup de professionnels adhèrent, c'est que la frustration est nécessaire dans le développement de l'enfant et dans le bon développement de l'enfant. Attention, quand on parle de frustration, il ne s'agit pas d'être dans le sadisme. On est en train de parler d'imposer ce qu'on appelle le principe de réalité, c'est-à-dire le fait de valoriser l'effort, et que quand il n'y a pas l'effort qui a été convenu, par exemple, pour obtenir telle ou telle chose telle ou telle permission, et c'est non. C'est non, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir, qu'il faut pouvoir pratiquer toujours de manière bienveillante avec les enfants, parce que c'est primordial. On oublie quand on parle de psychologie positive à outrance, on oublie que on vit dans un monde où il y a des lois, il y a des règles, il y a des règles à l'école, il y a des règles morales en société, il y a des lois, et que finalement. Quand on contrevient à toutes ces lois et à toutes ces règles, la sanction, elle est systématique. Donc, c'est très important aussi de pouvoir, cultiver ce principe de réalité dans l'éducation de nos enfants. Et justement, concernant la rentrée, selon les difficultés, selon les différents niveaux, bien sûr selon l'âge des enfants, c'est très important d'être dans d'être dans le recadrage et dans la mise en place d'un cadre permanent, fixe, mais ferme, entre guillemets. Et la fermeté, ça veut dire que les limites, on les bouge pas à chaque fois, ou ça dépend de l'humeur du jour. C'est-à-dire que même si on n'a pas très envie de manifester notre désapprobation, etc., par rapport à un manquement de la part de notre enfant, il faut quand même se forcer à le faire. Toujours, je rappelle, de manière non violente. Alors, bien sûr, on est des humains. Quelquefois, on a mal dormi, on a eu des problèmes pendant la journée, etc. Et puis, il s'en vient un moment où il va y avoir une discussion qui est un petit peu musclée. Nous sommes tous des humains, on peut un peu déraper, entre guillemets. Mais ce qui est important, c'est, par la suite, quand les esprits se calment, revenir un petit peu sur ce qui a été dit, en appliquant les principes de la psychologie positive, en favorisant la compréhension et puis le partage de l'état émotionnel, très important pour nos enfants, de leur dire que de leur faire comprendre que tel ou tel comportement ça nous a rendu triste, ou tel ou tel comportement ça nous a fait peur, c'est très important, ça on le dit pas assez probablement, c'est ça vraiment les réelles bases d'une communication non violente. Et puis, quand notre enfant fait un vrai progrès en termes de comportement dans le sens où on voudrait, il est extrêmement important de le complimenter. Beaucoup plus que de lui acheter quelque chose, une récompense. Ça aussi, c'est une dimension importante. C'est que les compliments, ce qu'on appelle le renforcement positif, le bout positif en langage comportemental, c'est le fait de complimenter. Mais attention, il ne faut pas le faire qu'une fois. C'est-à-dire que pour la même action, moi j'appelle les gens à pouvoir le verbaliser 3-4 fois, à plusieurs jours d'intervalle, histoire de donner un maximum de chance pour que le bon comportement puisse subsister dans le temps.
Et docteur Lourabi, justement, est-ce que vous aurez des conseils pour ces parents qui, par exemple, sont un petit peu allés dans l'extrême de l'éducation positive, comme vous dites, qui sont un petit peu allés voir dans la caricature de l'éducation positive, où les enfants, avaient un petit peu main libre, entre guillemets, surtout. Comment est-ce qu'ils peuvent corriger un peu voilà, ces extrêmes?
Alors, c'est important votre question, parce qu'en fait, quand on va dans les extrêmes de la psychologie positive, avec notamment ces dérives, comme je l'indiquais, l'absence de cadre, etc., on va aboutir le plus souvent à des enfants qui souffrent d'anxiété excessive, qui souffrent de quelques éléments de troubles de la personnalité, notamment des personnalités à tendance un peu narcissique, ce qu'on appelle les enfants tyrans ou les enfants rois, où ils se sentiront toujours avec la nécessité d'être assistés par leurs parents pour pouvoir justement assouvir leurs besoins. Il y a toute cette dimension-là qui est importante quand on est dans les excès. Attention, toute aussi l'éducation coercitive à outrance va aboutir au même problème, au même problème, en tout cas en termes d'anxiété, ça c'est sûr, mais aussi en termes de comportement antisocial, de provocation, de conduite délictuelle, ce genre de choses. Donc, toute dérive n'est pas bonne, et justement à partir du moment où l'impact est quand même relativement significatif, quand on parle d'anxiété, de troubles de la personnalité, etc., et ben c'est très important de se faire accompagner par un professionnel de l'enfance et de l'adolescence qui va pouvoir donner un travail qui va pouvoir faire de la guidance parentale pour justement essayer de rétablir un petit peu les bons principes, enfin les principes fondamentaux de l'éducation. N'oublions pas que éduquer, c'est étymologiquement, ça veut dire faire cheminer. Donc au final, c'est ça en fait notre mission en tant que parents, c'est de faire cheminer nos enfants de telle sorte à ce qu'ils nous survivent, entre guillemets. Donc ça aussi, c'est très important de reprendre les choses aussi rapidement que c'est identifié et le plus précocement possible, parce que ça donne en général d'excellents résultats. Les enfants sont quand même assez malléables, entre guillemets, en termes de construction psychologique, pour un petit peu se réadapter, s'adapter à de nouvelles choses, et il faut pas hésiter, et il faut surtout pas banaliser en se disant que ça lui passera.
Et docteur Atmal Lorabi, on le voit ces derniers jours, quand on sort, les parents qui achètent les fournitures scolaires pour leurs enfants, ou ceux qui les ont déposés à côté de l'école, qui sont en stress complet, qui sont limite paniqués. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents, parce que ça risque justement de communiquer ce stress aux enfants, et quelle est la limite en quelque sorte, ou comment ces parents doivent se comporter pour faire la part des choses et éviter de communiquer ce stress ou cette colère à leurs enfants?
Vous savez, c'est bien sûr, on se sent stressé par différents facteurs, mais c'est bon, quand même compliqué d'agir réellement et de contrôler l'apparition de ce stress, parce que moi je pars du principe que bon, les parents, chacun ses conditions, chacun nombre d'enfants, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent moduler le stress au sein d'une famille, et pas seulement le fait qu'on soit en période de rentrée. Et si vous voulez, la question est aussi beaucoup plus vaste que juste sur le plan psychologique. Parce que la rentrée est aussi synonyme de stress financier,
de tellement
de choses que donner un conseil pour permettre d'atténuer ce stress serait presque prétentieux de ma part. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que les rentrées, on en vivra d'autres comme on en a vécu d'autres, et que c'est très important de s'ancrer dans la réalité des années passées pour se dire qu'au final le résultat a toujours été pas si catastrophique que ça. Sûr, à l'exception d'enfants qui ont des difficultés particulières, et c'est important de se rappeler justement la réalité des choses et pas juste être perdu dans nos pensées internes qui sont juste synonymes de peur de l'avenir.
C'est sur ce très beau conseil que se referme notre échange, docteur Atmal Lorabi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver sur les ondes de Midi 1.
Merci beaucoup.
Tout le plaisir est pour moi. Merci à vous.
Et au revoir. Mardi prochain.
À mardi prochain.
Avec plaisir.
Merci. Ciao, ciao.